Là, on a vraiment constaté et remarqué ces derniers temps que nos chaînes de production, ils s'attendent avec des automates, avec différents équipements. Ces équipements sont très souvent maintenus et opérés par des prestataires externes. Et ici, on a un risque que ces personnes se connectent à travers différents boîtiers qui ne sont pas forcément maîtrisés ou gérés par nos équipes locales. Donc ça, c'est vraiment un risque important et on le retrouve, je pense, dans toutes les industries finalement, pas que en agroalimentaire.
Bienvenue dans Les Résilients, le podcast des super-héros du numérique. Un podcast produit par Silicone.fr en partenariat avec Splunk, une entreprise de Cisco. Splunk aide les organisations à être plus résilientes grâce à sa plateforme unifiée de sécurité et d'observabilité.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la nouvelle saison des Résilients. Dans ce numéro, nous parlerons évidemment de résilience comme d'habitude, mais cette fois dans le secteur agroalimentaire et nous le ferons avec notre invitée, Lucie Poirot, RSSI de proximité pour le groupe Agrial. Bonjour Lucie Poirot.
Bonjour.
Bienvenue dans ce podcast. Bonjour Audrey Houliard.
Bonjour Bertrand et bonjour Lucie Poirot.
On commence comme d'habitude avec une histoire de résilience, on ne change pas les bonnes habitudes.
Alors effectivement, on va commencer par une histoire de résilience, mais on change quand même un peu les bonnes habitudes parce que cette fois-ci, je vais vous demander, Lucie, de venir commenter et réagir sur cette histoire. Et pour le thème, je vous laisse découvrir ça dans un instant. Imaginez, nous sommes en mai 2021. Une entreprise gigantesque, l'un des plus grands fournisseurs de viande au monde, voit ses opérations soudainement paralysées. Les usines s'arrêtent, les chaînes d'approvisionnement se figent. Les supermarchés se préparent à des pénuries massives et les consommateurs s'interrogent. Est-ce que c'est une simple panne ou le signe d'une menace bien plus grande? Derrière cette crise, pas de catastrophe naturelle, pas de faille économique, mais une attaque. Une attaque informatique coordonnée, sophistiquée, et qui met en lumière une nouvelle réalité, celle de notre dépendance totale au système numérique. Alors, Lucie, est-ce que vous devinez de quoi je parle ?
Je connais plusieurs entreprises dans ce secteur-là, mais côté viande... Là, comme ça, je vois pas. Mais je vois bien une attaque informatique. Hein.
Alors, il s'agit de l'attaque par ransomware contre JBS. C'est l'un des leaders mondiaux de l'agroalimentaire. Ça va entraîner l'arrêt temporaire des opérations de cette entreprise dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada et l'Australie. Cette attaque, elle va avoir des impacts sur les chaînes d'approvisionnement alimentaire sur toute cette zone et sera amplifiée en plus par la crise sanitaire de Covid-19. Alors, l'entreprise, le 9 juin, va déclarer qu'elle a payé une rançon de 11 millions de dollars aux hackers pour débloquer les systèmes. Donc on en arrive là. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans une attaque de cette ampleur? Est-ce que c'est la communication au public? Est-ce que c'est la décision de payer ou non cette rançon? Ou c'est de reprendre les opérations?
Alors premièrement, ça va être la communication. Parce qu'effectivement, une erreur de communication peut vite être mal interprété par les consommateurs ou en tout cas par les personnes qui auraient vu de cette communication. De mon point de vue, payer la rançon, ça c'est plutôt non. Donc là-dessus, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Pour avoir déjà vécu également une cyberattaque dans mon ancienne entreprise, donc pas chez Agrial, la question ne s'était pas posée. Très rapidement, on a souhaité vraiment tout couper. En tout cas, les accès vers l'extérieur et ne surtout pas aller se renseigner sur le paiement de cette rançon.
En tout cas, l'affaire JBS, c'est bien plus qu'un simple cas de ransomware. Cet événement, il a secoué non seulement l'entreprise, mais aussi toute la chaîne d'approvisionnement alimentaire mondiale. Elle a révélé à quel point nos infrastructures critiques sont vulnérables face aux cybermenaces, mais aussi comment l'entreprise a su, avec une certaine rapidité, reprendre le contrôle de la situation. En 2021, on parlait beaucoup de ransomware, mais en 2025, est-ce que vous pensez que les entreprises sont réellement mieux préparées à ce type d'attaque? Ou est-ce que ça reste en quelque sorte une épée de Damoclès pour les grandes infrastructures critiques?
Je ne pense pas qu'on soit encore assez préparé. Ben, là, c'est ce que je vis hein, et ça peut être aussi un sujet pendant ce podcast. Mais je pense que ce sont les entreprises selon comment est-ce que la direction voit les risques, en tout cas de cybersécurité, de ransomware, on sera plus ou moins préparé. Chez Agrial, on est en cours, on va faire un premier exercice à dimension Agrial cette année. Mais effectivement, là où j'étais avant, on ne s'était pas du tout préparé. Bon, c'était il y a quelques années, mais je pense que oui, c'est encore une épée de Damoclès. On sait que ça peut arriver, on ne sait pas quand, mais on ne prend pas forcément les mesures et les moyens pour se préparer suffisamment à ce genre d'attaque.
Merci Audrey pour cette histoire et merci Lucie pour vos commentaires. Audrey reste évidemment au micro comme dans les deux saisons précédentes pour vous interroger Lucie et on a plein de questions pour vous. Je rappelle que vous êtes RSSI de proximité du groupe Agrial qui regroupe pas moins de 12 000 agriculteurs adhérents et vous opérez sur plus de 10 pays, ce qui donne quand même une idée de votre volume d'activité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le métier d'Agrial, Lucie ?
Oui, donc Agrial c'est une coopérative. Donc les adhérents, hein, ce sont vraiment les personnes les plus importantes pour nous puisqu'on va leur acheter leur production. Quel type de production ? On va retrouver donc de la viande avec une gamme de charcuterie haut de gamme justement, des fruits et des légumes frais, donc avec des marques plutôt connues comme Florette par exemple. Une autre branche, pommes et boissons, donc là on va plutôt être sur la valorisation des pommes, mais pas que puisqu'on fait aussi du prêt-scola. On a également la branche lait, donc je pense beaucoup y revenir puisque c'est la branche sur laquelle je travaille. Donc dans la branche lait, on collecte, on transforme le lait pour en faire des yaourts, du fromage, de la crème fraîche et autres. Et je sens que j'en oublie une, bien sûr la branche principale, la branche agriculture, où là on est plutôt sur des équipements pour nos agriculteurs justement, nos adhérents. Et donc on a également une chaîne de magasins avec la branche agriculture.
Lucie, non seulement vous êtes RSSI, mais vous vous définissez comme RSSI de proximité. C'est assez rare. Ça veut dire quoi ? Et est-ce que vous êtes nombreux ou nombreuses à pouvoir revendiquer cette appellation ?
Alors, chez Agrial, on est trois. Et donc, c'est effectivement un nom que mon chef a déterminé il y a un an, quand il y a eu une petite réorganisation de l'équipe cybersécurité au sein d'Agrial. Donc, il s'est dit, enfin, en tout cas, si on revient à quelques années, les RSSI étaient rattachés à la branche d'activité directement, donc on était des RSSI de branche. Et depuis un an, donc le RSSI Group souhaite une équipe plutôt centrale, donc on rapporte tous à Agrial, et on est en proximité des branches d'activité. Donc finalement, on travaille avec les branches, on les accompagne dans leurs projets, dans leur quotidien, sur du conseil, de l'expertise en cybersécurité, mais on a également une autre expertise transversale au groupe.
Dans votre secteur de l'industrie agroalimentaire, est-ce qu'il y a des cyber-risques particuliers ou potentiels récurrents ?
Alors oui, effectivement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait la deuxième année que le groupe a défini la résilience des systèmes d'information comme le risque numéro 1 pour Agrial. Et donc, derrière ce premier risque, on a l'atteinte malveillante à la disponibilité de nos chaînes de production. Dans le cadre de malveillance, on est plutôt sur des actes non sollicités, malveillants. Donc plutôt sur des incidents cyber, propagation de virus par exemple. Et ça, c'est vraiment le premier point sur lequel nous, on travaille, on axe nos mesures et nos actions avec le déploiement de différents outils. La seconde, ça va être aussi l'atteinte, mais plutôt accidentelle, à la disponibilité de nos chaînes de production. Et donc là, on est plutôt sur des pannes ou des catastrophes naturelles qu'on ne peut pas maîtriser ou anticiper.
Lucie, est-ce qu'il y a une crise particulière qui vous a marqué dans votre parcours ?
Alors, pas chez Agrial, parce que ça fait un peu plus d'un an que j'y suis et j'espère ne pas avoir de grosses crises. Mais effectivement, dans mon ancienne vie, ma précédente expérience, j'ai vécu une cyberattaque d'ampleur qui avait touché l'ensemble du groupe. Alors, c'était également un groupe industriel. Mais l'ensemble des usines...
C'est celle dont vous parliez tout à l'heure ?
Tout à fait, oui, c'est ça. L'ensemble des usines du groupe était à l'arrêt. Donc ça, c'était en fin 2020, donc après une crise Covid, pour le coup. Mais ça a été assez marquant par l'événement, par l'ampleur aussi. Il y a beaucoup de choses qui se sont bousculées. Ça a été quand même assez traumatisant pour moi les premiers jours, premières semaines. Parce que je sortais de formation. J'étais tout juste diplômée en cybersécurité et... Finalement, on s'y attend pas, même si aujourd'hui, on peut le dire, c'est est-ce que je vais me faire attaquer, c'est plutôt quand ? Là, on se la disait quand même et on ne s'attendait pas à ce que ça arrive si vite. Il y avait déjà eu quelques petits incidents, mais pas de cette ampleur-là, donc c'est toujours traumatisant. Mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage, finalement.
Justement, c'est ma question. Qu'est-ce que vous avez pu en tirer comme peut-être des leçons ou des apprentissages que peut-être aujourd'hui vous appliquez chez Agrial ?
Oui, l'entraînement, les exercices. Parce que pour le coup, ça, c'était vraiment un entraînement grand en nature. Mais je pense que c'est important de s'entraîner. Alors, on sait aussi qu'un entraînement, ça ne va pas forcément traiter toutes les possibilités d'attaque. On ne va pas avoir tous les scénarios. Parce que ça évolue énormément avec l'IA qui arrive aussi. Enfin, il peut y avoir beaucoup de scénarios envisageables. Mais quand même, s'entraîner, vérifier que nos fiches réflexes, que nos procédures soient à jour, qu'elles puissent aussi être déroulées par les bonnes personnes, c'est vraiment important. Donc ça, c'est le premier point. Donc, comme je disais également, On va jouer notre premier exercice niveau agrial cette année. Les tests, alors différents tests, hein, mais notamment sur les applications critiques, s'il y a des tests de restauration à faire, s'assurer que les applications pourront être restaurées rapidement pour être remises à disposition et continuer à produire. Et aussi, ce que j'ai quand même pas mal retenu, c'est de prendre du recul sur les crises, parce qu'il y a les crises, effectivement, cybersécurité, mais il peut y avoir aussi des crises parfois un peu moins importantes. Mais tout de même, ça reste des crises et il faut savoir prendre du recul, dégrossir le sujet, investiguer, appeler les bonnes personnes. Et tout ça, ça m'a également effectivement permis de le mettre en pratique un peu plus aujourd'hui, de se poser les bonnes questions.
Et justement, aujourd'hui, dans votre environnement, donc chez Agrial, qu'est-ce que ça veut dire la résilience ?
Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, Agrial a décidé il y a quelques années de faire infogérer leur système d'information. Ce qui est une bonne chose puisque cet infogéreur lui-même va mettre en place des plans de reprise d'activité qu'ils vont tester régulièrement sur les applicatifs critiques. Ce que c'est aussi, c'est donc la mise en place de procédures, de nouveaux process pour assurer cette continuité d'activité, que ce soit au niveau industriel mais aussi informatique, puisque nos usines, nos chaînes de production, elles sont de plus en plus informatisées. Elles dépendent de l'informatique, d'applications. Donc ça aussi, il faut pouvoir assurer leur continuité d'activité. Les sauvegardes, ça je pense que c'est un point effectivement important. Donc de mon côté, en tant que RSSI, je dois m'assurer que les sauvegardes elles soient bien faites, qu'elles soient aussi immuables, parce que si l'attaquant arrive à écrire ou à écraser ses sauvegardes, finalement, ça ne servira plus à rien. Et puis bien sûr, m'assurer qu'il y ait des tests de restauration aussi réguliers sur différents types d'applicatifs, d'applications. Et dernier point, c'est que donc grâce aussi à l'infogérance du système d'information, eux-mêmes ont mis en place deux centres de données. Donc finalement, une partie de nos équipements ou de nos applications sont déjà répliquées dans deux espaces différents.
Lucie, vous l'avez un petit peu évoqué, mais quelles formations, quels exercices de sécurité avez-vous mis en place chez Agrial et Agrial ? Et est-ce que les producteurs eux-mêmes font partie de la sensibilisation ?
Alors, différentes petites choses qu'on a mises en place. Il y a quelques années, on est parti sur des petits modules de formation disponibles pour l'ensemble des collaborateurs et qu'on a très vite remis en question, puisque c'est des vidéos assez descendantes, les collaborateurs ne sont pas forcément acteurs de ce genre de vidéos. Donc, il y a un an, on a revu notre position. Et on a déployé un petit assistant virtuel dans notre solution de messagerie instantanée. Donc, il propose des petits modules courts, plutôt ludiques, interactifs. Donc ça marche plutôt bien. On a un taux de déploiement qui est plutôt réussi de notre point de vue, en tout cas. Et on a encore aussi un petit peu de boulot. Le deuxième point, donc, c'est également des affiches pour les usines, parce qu'effectivement, les ouvriers qui sont dans les usines n'ont pas forcément d'équipement informatique. Donc, eux ne peuvent pas bénéficier de cette sensibilisation par cet assistant. Donc là, on leur propose des affiches à imprimer directement et à placarder finalement dans les salles de pause, dans les petits coins où il y a du passage. Donc ça, c'est pour les usines et les magasins. Cette année, on a également fait un test de phishing qui a aussi plutôt bien marché dans le sens où les retours ont été très nombreux. Les gens ont plutôt bien rapporté les différents scénarios de test de phishing. Et on a même dans cet exercice, parce que c'est quand même assez rigolo, enfin en tout cas l'anecdote est assez rigolote, on a simulé en fait un phishing avec une agence de voyage avec laquelle on travaille. Et un de nos collaborateurs a carrément contacté l'agence pour leur demander si c'était un vrai mail ou un phishing, jusqu'à ce que le DSI de l'agence nous rappelle. Vous pourriez peut-être nous prévenir quand vous faites des tests sur notre agence. Oui, il y a aussi des apprentissages tout le temps. Donc ça, c'était assez rigolo. Et sur la branche Agrial, la branche lait, précisément, avec le DSI, on fait des webinaires de sensibilisation en français et en anglais pour l'ensemble des collaborateurs. Et également des sensibilisations en présentiel auprès des comités de direction. Par contre, les producteurs ou les adhérents ne font pas partie de notre sensibilisation à aujourd'hui, en tout cas.
Est-ce que chez Agrial, il existe des enjeux qui sont liés à l'IoT parce qu'il y a l'ensemble des outils connectés, des capteurs tout au long de la chaîne de production, des produits laitiers, donc tout ça présente un caractère de risque potentiel?
Oui, donc comme je l'ai dit précédemment, effectivement, notre mission est bien de maîtriser les risques afin de protéger les opérations du groupe. Donc les opérations, ça va être la collecte, la transformation et la distribution de nos produits. Donc oui, il y a effectivement un enjeu, il y a des risques. Notamment, les chaînes sont de plus en plus informatisées. On a aussi certaines usines qui sont beaucoup plus en avance, donc qui ont elles-mêmes un système d'information industrielle qu'elles peuvent gérer. Et comme je disais, on fait aussi appel à des télémainteneurs, donc tout ça, c'est des connexions externes qui sont parfois, par contre, moins bien maîtrisées, moins bien gérées, donc on a également un risque là-dessus. Et comme vous le disiez, les capteurs, les outils connectés, tout ça, ça va nous permettre de contrôler la qualité du lait, de contrôler les produits qu'on va vendre à nos consommateurs. Donc oui, il y a un réel enjeu parce que là, c'est plutôt le risque sanitaire qui va prendre le dessus si demain, on livre un produit endommagé par un mauvais dosage en matière grasse, en lait ou autre chose.
On parle beaucoup d'intelligence artificielle encore aujourd'hui. Quelle est la place de l'IA dans la stratégie d'Agrial ?
Alors, il y a une petite place effectivement pour l'IA, donc, qui est également assez récent. Donc, en début d'année, il y a eu différents webinaires pour pouvoir sensibiliser les collaborateurs à son utilisation, à ce qu'on peut en faire, à quel moment est-ce qu'on doit aussi utiliser l'IA plutôt que le moteur de recherche Google, typiquement, les risques aussi de son utilisation. De ça, on est découlé une charte d'utilisation. Donc, on a laissé aux collaborateurs la possibilité d'utiliser un outil que nous, on a validé. Et plus récemment, l'équipe IA a souhaité lancer un challenge autour de l'IA et des activités des collaborateurs. Donc, on doit soumettre des projets en lien avec l'IA et nos activités. Ces différents projets seront soumis à un jury. Ce jury va pouvoir valider différents projets qu'on pourra tester plus tard dans le programme du challenge.
Parmi toutes les réglementations françaises ou européennes qui sont arrivées ou arrivent, à laquelle êtes-vous soumis et quel est votre retour d'expérience sur sa mise en place et sa pertinence pour vous ?
Alors, ça va être NIS 2, effectivement. NIS 1, on n'était pas soumis, mais NIS 2, on l'est. Notre position, elle est assez ferme sur le sujet. En tout cas, c'est aussi mon responsable qui porte cette position. On ne cherche pas aujourd'hui la conformité à NIS 2. On a notre roadmap, on a une équipe cybersécurité, on connaît nos risques. On va poursuivre notre roadmap. En tout cas, on ne se sent pas en décalage par rapport aux attentes de NIS 2. Donc, on devrait pouvoir finalement y arriver petit à petit. Mais on ne cherche pas absolument cette mise en conformité. On sait aussi, en tout cas, je ne pense pas que ce soit un secret, mais le secteur agroalimentaire a quand même un niveau en sécurité qui est peu mature. Finalement, on n'en fait pas depuis très très longtemps. Donc, on a quand même beaucoup de fondamentaux aussi à mettre en place. Et là-dessus, on travaille pour pouvoir y arriver déjà de ce côté-là. Et finalement, poursuivre, dérouler notre démarche comme on l'a envisagé.
On arrive à ma question préférée. Si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il ?
Eh bien, j'ai eu plusieurs idées. Je ne sais pas trop lequel retenir. Mais je pense que, comme là, je viens de le dire, on a encore un certain socle, des fondamentaux qui ne sont pas forcément acquis. J'aimerais bien... claquer des doigts et puis avoir au moins les solutions minimales sur l'ensemble du système d'information d'Agrial. Alors, quand je dis du système d'information, finalement, on pourrait dire les systèmes d'information, puisque ça, je ne l'ai pas dit auparavant, mais chaque branche, donc chaque activité, finalement, a un, voire plusieurs systèmes d'information au sein de son activité. Donc, ce qui multiplie et ce qui va aussi complexifier un petit peu notre démarche. Mais... qui est aussi tout à fait challengeant en fait au quotidien. Mais là, je pense que là, aujourd'hui, si je pouvais avoir un super pouvoir, ça serait celui-ci.
Ok, et pour un prochain épisode, est-ce que vous avez en tête une super-héroïne ou un super-héros du numérique à nous recommander ?
Alors, je vais rester sur les super-héroïnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de femmes et qu'on ne les met pas forcément suffisamment en avant. Donc, j'ai encore pensé à une femme, à une nantaise notamment, puisque je suis également basée à Nantes. Donc j'ai pensé à Oriane Lemel, qui est actuellement responsable du pôle sécurité et conformité dans la santé. Et il me semble qu'il n'y a pas eu beaucoup d'interviews sur ce domaine-là. Donc
nickel.
Merci beaucoup d'avoir valorisé et les femmes de la cybersécu et Nantes dans le même temps. Merci beaucoup Lucie Poirot.
Merci à vous également pour l'invitation et pour ce podcast.
Vous étiez donc l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, une filiale de Cisco. Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Merci à Audrey Williard pour l'histoire de JBS en ouverture, mais aussi l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast.
Et à toi, merci Bertrand Lenôtre pour l'animation et le montage de ce podcast.
Saviez-vous que de très nombreux autres épisodes de cette série vous attendent, puisqu'on en est à la troisième saison, vous les trouverez sur les principales plateformes de podcast. Pensez donc à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle rencontre.
Retrouvez l'ensemble des épisodes de Les Résilients sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Et pour plus de cas concrets en matière d'observabilité et de sécurité, rendez-vous sur le site de Splunk.